Création On Air. On Air. On Air. Creation On Air.
Bonsoir. Non loin du Puy de Sancy se niche le lac Pavin et son lot de légendes. Il serait né de l'action du diable qui, assis au bord d'un gouffre, aurait pleuré toutes les larmes de son corps. Ludovic Soubrier évoque, lui, un culte annuel avec des sacrifices humains autour d'un lac dans lequel se tient un dragon terrible. Pour les scientifiques, il est un des rares lacs méromictiques du monde. Pour Stéphane Bonnefoy, le Pavin témoigne de sa relation magnétique avec cette région où naquirent tous les membres de sa famille et où il n'a jamais vécu que le temps de l'enfance. Une relation archaïque et filiale, tellurique, sombre et imaginaire. Pavin, c'est aussi ce soir le lac de l'épouvante. Création On Air, Pavins, par Stéphane Bonnefoy, Marie-Laure Ciboulet, Olivier Dupré.
Il est austère un peu, ténébreux, il est morbide, il est un peu sauvage, il fait un peu peur. Donc il a quelque chose, ce lac, il a un genre de pouvoir, des mains, de... Moi je l'aime, mais il me fait peur. Quand on fait le tour, qu'on est par exemple tout seul, on entend craquer les arbres. On dirait que derrière vous, il y a quelqu'un, puis là, il n'y a personne. Vous voyez, ça fait des... Moi, je dirais des fantômes. Comme des fantômes. Mais le Pavin, moi, j'ai une attirance, je sais pas, il m'attire. Et quand on fait la fête des estives, tout en haut, là-haut, au-dessus du lac, je ne vais pas m'approcher parce que je tomberai. Il y en a beaucoup qui disent que ça leur fait le même effet. Ça fait des frissons dans le dos. Maintenant, peut-être que je suis trop haut. Trop sensible, je sais pas.
Depuis le sud. Pas tout à fait de la mer, mais depuis les rives du Rhône, aux confins du Gard et du Vaucluse. Le Rhône, c'était un peu notre mer. C'était le début du mois de juillet, juste après la fin de l'école. Et on partait très tôt le matin, je me souviens.
Pavins, un lac épouvantable. Stéphane Bonnefoy, Marie-Laure Ciboulet.
C'était une route qu'on pouvait prendre. Il y en avait plusieurs. Mais l'une des plus belles, mais qui était sans doute aussi la plus longue, était celle qui nous faisait traverser les monts d'Ardèche. L'Argentière, Langogne, Pradelle, Malzieux. Et puis après on remontait Conda. On longeait la Dordogne et on remontait jusqu'à Tove. Où habitait mon arrière-grand-mère. Et c'est vraiment là, finalement, que on changeait de décor et de paysage, et que finalement les vacances commençaient. Tout ça, c'était notre territoire. Ça paraît vraiment minuscule sur la carte, alors que c'était des balades qui duraient la journée, depuis très tôt le matin jusqu'au soir. Ça me paraît incroyable qu'on ait pu parcourir avec Yvan autant de kilomètres.
On va monter sur le Chambourguet. Et il est Il a une forme un peu en trapèze. Et c'est une ancienne cheminée volcanique avec un petit cratère à l'intérieur. Là, on va voir un panorama magnifique qui couvre le massif du Sancy. On voit jusqu'au massif du Cantal et le Puy de Dôme aussi. Et un dernier volcan assez méconnu qui s'appelle le massif du Cézallier. On est vraiment au cœur de l'Auvergne volcanique, l'Auvergne hydrothermale avec toutes ces sources minérales qui sont connues depuis les Romains et qui ont fait la renommée de Saint-Nectaire, de la Bourboule et du Mont d'Or.
Le Mont d'Or est plein de fontaines, recommandable pour ces bains d'hiver qui en sortent chauds, tièdes et froids, où vont tous les ans une grande abondance de malades qui se trouvent fort bien de leur lavement. Près de ce mont est la ville de Besse et un demi-quart de lieu d'Isselle, une grande étendue, si profonde qu'on la tient pour une abîme. Le terrain s'élève tout autour d'elle, placé au sommet d'une montagne qui elle-même est encore dominée par une autre. Ce court trajet, il faut l'accomplir seul, même si toujours il dure trop.
On est bientôt au sommet. On va voir tout le panorama, Puy de Dôme, Pavin, Sancy, Massivière. Ça va être magnifique. On est en plein dans l'herbe. Il y a eu beaucoup de pluie, beaucoup de soleil. L'herbe est haute. Il y aura beaucoup de fourrage.
Il s'appelait Yvan Bonnefoy, mon cousin lointain Yvan. Il avait changé le I de son nom en Y, dès qu'il eut 18 ans. Bonnefoy avec un Y, cela faisait moins prolétaire. Dans les années 80, dans le Puy de Dôme, une telle démarche était rare. Il avait aussi tenté d'acheter la particule d'un vieux marquis fauché de Champagnac, dans le Cantal, Yvan de Bonnefoy. J'eus connaissance de ces faits bien après ce que nous avons longtemps appelé dans la famille sa disparition. C'est ainsi que l'on qualifie la mort d'une personne dont on n'a pas retrouvé le corps. C'est ainsi que l'on qualifie le mort face auquel nous ressentons de la culpabilité. Le disparu, au visage de noyé, baignant entre les eaux d'un lac méromictique. Sur ce versant des Monts d'Or, où Yvan résidait avec sa mère Nicole, Bonnefoy était un nom courant. Plusieurs familles portaient le même patronyme, dont un couple d'éleveurs installés sur la route de la Croix-Morand. Le fils de la ferme des Bonnefoy, avec un X, était un ami d'Yvan. Chaque semaine, été comme hiver, habillé, dit-on, à la manière d'un enfant de cœur, il parcourait les 3 kilomètres d'ascension qui lui permettaient de rallier la route du col de la Croix-Saint-Robert, le plus beau des Monts d'Or, qui vous expose au vent violent venu du rocher de l'Aigle. Courageusement, il s'attaquait aux lacets du hameau de Bressouleil. Il lui restait 4 bons kilomètres à parcourir avant d'apercevoir, les jours où la brume ne recouvrait pas le col de Diane, la ferme des Bonnefoy. Nicole s'inquiétait-elle de voir partir son fils dès le lever du jour ? Yvan ne rentrait qu'à la nuit tombée. Tous feignaient d'ignorer son amour pour le fils du fermier Bonnefoy. Jusqu'à ce jour où Yvan cessa brutalement ses visites. Que s'était-il passé entre les deux adolescents ? Sa mère, Nicole, une bourgeoise native du Puy-en-Velay que mon oncle avait épousée, n'eut jamais les moyens de pénétrer au cœur de la vie de son fils unique, continuellement troublé par d'infimes événements. La sensibilité, voire la préciosité d'Yvan, s'attisait au moindre signe, qui lui était plus cher que les biens dont le gâtait sa mère. Il s'attardait sur l'étrangeté d'une tache formée par la mousse sur une pierre. Un vieux bout de tissu noué au fil barbelé d'un enclos. La modestie d'une croix de rogation aux abords d'un champ ou d'un fossé. Laquelle, il le sut dès l'enfance, conjurait toutes les calamités. Ces détails oublieux lui inspiraient des narrations qu'aggravait l'impétuosité de son imaginaire. Ces récits tenaient davantage d'une réalité préhistorique ou d'une sorte d'allégorie magnétique que d'une fiction ou même de sa folie. Yvan me dit un jour éprouver le vertige au simple fait de fixer son regard sur un gravillon posé là sur le bitume. « À quoi sert-il ? » me lança-t-il un jour, où nous nous étions réfugiés sous le filon de roche de la dent de la rancune. Alors que nous traversions sans but, un matin pluvieux, la vallée de Chaudefour. À quoi bon exister si c'est pour être ignoré de tous ? Le monde est si grand, poursuivit-il. L'indifférence et la vulgarité le mettaient dans un puissant émoi. C'est sans doute pourquoi Yvan préférait les vies souterraines à la solitude extatique des sommets. Le plus étrange est que personne dans notre famille ne songeait à le questionner. La peur sans doute d'avoir à se colter avec la pauvreté de sa propre imagination. Qu'importe aujourd'hui. En traversant ces paysages qui sont à jamais les siens, je me dis que ce n'était peut-être pas son imagination, mais sa mémoire qui était trop grande.
Un vaste panorama, mais largement au-dessus de la limite des arbres. Et puis devant nous, une demi-douzaine de volcans très récents, dont le plus récent est le volcan du Pavin et le volcan du Montchal, qui ont environ 7000 ans d'âge. Ils sont peut-être juste endormis. Et devant nous, on voit donc le lac Pavin, qui est enchâssé dans une collerette de forêt sombre et qui est de couleur émeraude devant nous, qui est magnifique.
Les oiseaux, ces hôtes des bois, sont rares et la raison en est parce que les fréquents brouillards que l'on voit sortir de ce lac, presque en tout temps, les enchassent. Il semble qu'il s'appelle lac de Pavin, à raison de la frayeur et de la peur qu'il cause à tous ceux qui le regardent, l'eussent-ils vu tous les jours de leur vie. Pavin viendrait donc de ces deux mots patois, par, vin, ou du verbe paveo qui signifie j'ai peur. Il faut y retourner plusieurs fois, à des matins, à des midis, où le soleil fait toutes bleues les nappes que le soir montre de plomb fondu. Il émane de ses eaux implacables, à toutes les heures, le même vertige livide.
Comme j'étais jeune chercheur, travaillant sur le lac de Genève, j'ai aussi commencé à étudier le lac Pavin. Donc j'ai une relation particulière avec ce lac. Et je me suis rappelé, il y a seulement quelques années, qu'en 69, quand je suis venu ici pour la première fois, ma grand-mère m'a dit « Ouh, mais fais attention, ne jette pas une pierre dans le lac parce qu'il pourrait t'arriver malheur. » Alors je lui ai dit « Écoute, laisse faire les vrais scientifiques et tout ira bien. » Et c'est seulement 40 ans après que je me suis aperçu qu'elle m'avait raconté quelque chose que tout le monde disait dans la région. Et le Pavin n'est pas comme les autres lacs.
Les yeux s'effarent à cette réalité. Cette masse d'ondes comblant, ras les bords, l'évidement du cratère, d'où s'élance le bois à pic qui enceint son pourtour. Ces bords d'une déclivité si brusque qu'il ne semble ne former qu'un cercle, au-dessous duquel l'eau serait dans le vide.
Le grand cratère du Pavin est en fait un cratère d'explosion qu'on appelle dans le jargon des scientifiques un mare. Les géologues pensent qu'il y a eu des infiltrations d'eau souterraines ou de surface, on ne sait pas très bien, qui ont rencontré le magma en fusion et il y a eu une explosion terrible. L'ensemble du cratère fait presque 200 mètres de profondeur. Et il s'est formé sans doute en quelques jours seulement. Donc ce type de lac est très rare. Les savants l'appellent méromictique, c'est-à-dire un lac qui ne se mélange pas jusqu'au fond. Ce qui signifie que les 30 derniers mètres du Pavin ont une forme de vie primitive qui n'est pas fonction de l'oxygène dissous. Donc ce sont des bactéries, des virus, et qui, la plupart, n'existent qu'au Pavin. Donc les eaux profondes du Pavin sont un moyen d'accéder à la vie primitive quand il n'y avait pas d'oxygène et quand les eaux étaient très riches en fer, en manganèse, en arsenic, etc. Et le CO2, qui est sans doute d'origine profonde, d'origine magmatique, peut s'accumuler dans ces eaux profondes. Alors pour l'instant, la quantité de CO2 n'est pas alarmante, mais il est fort possible donc que par le passé, dans les siècles passés, elle ait atteint ce qu'on appelle la saturation et ce qui a fait dégazer soudainement le lac à plusieurs reprises. C'est une cocotte minute avec un couvercle étanche en principe et normalement. Voilà. Mais s'il y a des conditions anormales, il peut être moins étanche. Imaginons que tout d'un coup, il y a un petit tremblement de terre, il y a un glissement de vase sur le fond du lac qui déplace l'eau profonde. Ça peut faire une petite vague, mais surtout ça va faire remonter l'eau profonde qui va alors dégazer. Et bon, là c'est pas bon.
Il est peut-être temps de penser à prendre quelques précautions contre ce lac qui dort et qui peut du jour au lendemain se réveiller de façon fulgurante.
La peau du voyageur qui cherche à y rafraîchir la main se couvre de boursouflures comme si elle avait été brûlée.
Le lac fumait au XVIe siècle et de temps en temps il y avait des explosions importantes avec des fumées délétères.
Jamais ruisseau ne l'alimente, jamais ses débordements salutaires n'ont fécondé les prairies.
Et quand le roi Charles IX est venu à Clermont en 1566, il y a une délégation qui est venue se plaindre au roi à propos de ce grand gouffre qui gâte les récoltes des vallées.
Les cratères voisins, le creux de Soucilly, qui est à un quart de lieue, y communique par des canaux mystérieux. Enfin dominé par de hauts rochers perpendiculaires, privé souvent sous le ciel orageux de l'Auvergne des rayons du soleil, son aspect mélancolique et sévère répond encore à ses impressions presque fantastiques.
Donc c'était quelque chose d'important pour les Auvergnats et qui a terrorisé, on peut dire, la population et la région d'Auvergne pendant plusieurs siècles, certainement.
Et l'imagination de rêver sur ses bords la danse des démons et des sorcières. Ajoutons qu'il y a toujours une vérité positive et incontestable derrière toutes les superstitions de la multitude pour qui sait la chercher.
D'où son nom, le lac de l'épouvante, Pavins le terrifiant.
Chaque été, mon père m'expédie dans ce pays, le sien, celui de son père, celui de nos véritables origines, minérales, métalliques. Il était heureux de m'éloigner du huis clos poussiéreux du village ouvrier qu'il avait dû rejoindre, bien plus au sud du massif central. L'ombre de l'usine dans laquelle je grandissais était-elle trop menaçante? Je n'ai jamais su traverser cette ombre pour accéder, enfant, à d'autres espaces, plus ouverts et plus grands. Je ne pouvais pas entendre alors les histoires d'Ivan. C'est aujourd'hui seulement que je le peux. Ivan avait reporté son affection sur moi. Peut-être est-ce que je lui rappelais le fils du fermier Bonnefoy. Au-delà du foisonnement de ses récits, c'était l'étrangeté de sa personne, féminine, et d'une froideur façonnée par les caractères d'ici, qui m'attachait à lui. Chaque matin, Ivan me retrouvait dans la maison de mon arrière-grand-mère Louise, nichée plus à l'est du puits de Sancy. Il était là dès le lever du jour, assis devant la porte, et nous traversions son vaste pays, fertile à ses yeux, mais qui ne se renouvelait jamais au mien. Entre ce que je voyais et ce que m'en contait Ivan, il me semble que nous ne vivions pas dans le même espace et surtout pas dans le même temps. Comme si notre amitié n'avait d'autre fondement que ce hasard qui nous réunissait chaque été. Il est vrai que je me cantonnais à l'écouter, à suivre ses pas. Je recherchais l'horizon des grands prés quand il nous enfonçait dans l'obscurité des forêts où ses chroniques fabuleuses redoublaient. Lorsque nous n'étions pas ensemble, Ivan écrivait pour moi des contes où figuraient des magiciennes et toutes sortes d'esprits versatiles. Il dessinait des scènes de bataille conduites par de puissants seigneurs aux prises avec des sorcières. Il inventait des légendes. Il n'y avait pas de gens de peu dans son monde, lequel oscillait entre deux pouvoirs, celui des puissants ou des forces féeriques. Durant les longs mois d'été et jusqu'à l'âge de mes 19 ans, j'ai voyagé aux côtés d'Ivan dans ce pays de quelques kilomètres carrés, de Vassivière au cratère du puits Montchal, de Courbange au Chambon des Neiges et jusqu'à la grotte de Jonas, où était peinte une scène du reniement de Pierre. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié trois fois. Ivan se souvenait avec Pierre de cette parole de Jésus. Dans une des grottes de Jonas, me dit un jour sa mère, Ivan aurait vécu les quelques jours qui précédèrent sa disparition. La dernière fois que nous nous sommes vus, C'était pour l'enterrement de notre aïeul au cimetière de Tove. Louise, celle qui m'accueillait l'été dans une maison d'un autre âge, où le grenier me suffisait à combler l'attente d'Yvan. Après une marche de plus de 3 heures, coupant à travers les monts de Chastré, il m'a conduit sur les rives du Pavin. J'avais découvert à ses côtés quantité de lacs, mais il gardait celui-là au secret. Il y avait tout autour un épais maquis d'arbres, de plantes et d'insectes dont j'ignorais l'origine et même le nom. Je n'avais jamais vu un environnement aussi luxuriant. Je vivais dans un espace sans autre histoire que celle que mon père et ses camarades écrivaient courageusement. Le paysage était façonné par l'industrie. Tout avait poussé là par hasard ou par nécessité. Les alentours du Pavin m'étaient semblables à une Toscane, à une de ces terres ouvertes où tous les arbres sont d'éternité. L'hiver, me dit Yvan, ce paysage connaît une nouvelle douceur. Sous la neige et la glace, il s'unit par effacement. Cette terre me semblait neuve, pleine de mystère et de pudeur. Sans doute était-ce pour cela que l'homme ne l'avait pas dénaturée. La peur aussi de la sonder. Nous étions au mois de décembre. Yvan traversa le lac gelé, insoucieux et même heureux du danger. Depuis la rive, j'observais la vie qui grossissait sous la couche de glace. Des poissons affreux comme des colacanthes, des tiges de posidonie scalpées par le gel, venues par quel mystère, des profondeurs de la Méditerranée. Ce ramage givré fracassait la barrière sociale qui enseignait mon imaginaire. Il y avait donc un temps plus archaïque que celui de l'industrie, fût-elle métallurgique. Pourquoi ce lac le fascinait-il autant ? 25 années plus tard, personne ne saurait donner de réponse. Je me dis que c'était peut-être parce qu'il était le plus jeune parmi tous les lacs de cratères de France.
Effrayant quand on arrive au débouché là, de la petite rivière qui s'en écoule, il y a cette masse noire qui se profile au fond et cette grande étendue d'eau absolument sinistre et calme, noire aussi, et on n'a aucune envie de se baigner, hein, aucune. On a juste envie de marcher avec précaution, voilà, sans tomber en creux de soucis. Là, c'est évidemment le pire qui puisse vous arriver. 40 mètres de chute, et vous terminez comme des vaches dans le Pavin. Il paraît qu'on retrouve des vaches dans le Pavin qui seraient tombées dans le creux de soucis. Oui, il y a pas mal de légendes qui courent autour de ce lac.
Le Pavin a des sédiments très particuliers. Il se dépose une mince pellicule de vase de moins d'un millimètre chaque année. Et donc c'est comme un immense millefeuille. Et donc on peut déchiffrer pratiquement année par année ce qui se passe dans le lac. Et ils ont trouvé la trace des surverses en l'an 600, en l'an 1300. Ils ont trouvé la trace d'épisodes de retournement du lac en 1783. Et un autre mélange possible en 1936. Et ça veut dire que le lac Pavin n'est pas du tout le plan d'eau calme et riant et plein d'ombles chevaliers que nous voyons aujourd'hui, mais qui peut avoir des colères terribles.
Quand on redescendait de Vassivière, on s'arrêtait au lac Et puis on prenait des cailloux, on faisait des ricochets. Hop. J'ai même ma bague, moi, là-bas. Ma grand-mère, pour mes 20 ans, elle m'avait offert une chevalière, mais elle était un petit peu grande. Et je prends un caillou, ouf, et ben la bague et puis la pierre, et ben elle est partie dans le lac. Je n'irai pas la chercher. Il n'y a que si c'est elle qui m'attire. Peut-être c'est elle qui m'attire et dit, allez, viens me chercher.
Nous dominons la montagne de Vassivière, qui est une montagne sacrée depuis peut-être très très longtemps, en tout cas depuis le Moyen-Âge certainement, et encore plus depuis l'an 1547, où il y a eu un miracle fondateur du pèlerinage qui existe toujours aujourd'hui. Et la montagne de Vassivière, comme vous le voyez, elle est à environ 1,5 km du Pavin, à peu près à la même altitude, peut-être 50 mètres au-dessus du rebord du cratère. Et donc, elle est à l'écart des méfaits possibles du lac. Le lieu où il avait coutume de se rendre était une chapelle d'altitude en pierre de volcan, baptisée Notre-Dame de Vassivière, au-dessus du village de Besse-en-Chandès. Plusieurs fois l'été, les croyants des alentours y venaient en pèlerinage. Yvan aimait se mêler à eux. Moi qui n'avais connu que les rassemblements des piquets de grève, enrobés par les odeurs de merguez et de fumigène de l'usine de mon père, je découvrais la manifestation religieuse, au même Roland dogmatique. La foi libertaire d'Yvan m'aidait à m'attacher à eux. Dans les pâturages qui environnaient la chapelle, on trouvait de vieilles pierres prises dans la terre, mises au jour par le broutement des troupeaux de Ferrandaise ou de Salers. Certaines stèles résistaient à quelques centimètres au-dessus du sol, comme des objets votifs qui marquaient le salut d'une âme ou d'un démon. Yvan les connaissait toutes, même celles qu'ignoraient les archéologues et les historiens. Il croisait ici l'histoire de la Vierge Noire de Notre-Dame avec ses miracles. Il avait trouvé dans la remise de notre aïeul l'ouvrage d'un dénommé Cladière, daté de 1688, qui avait pour titre « Histoire de la Sainte Chapelle de Vassivière, célèbre par les miracles que Dieu y fait continuellement par l'intercession de sa très pure et glorieuse mère ». On y lisait l'histoire de Pierre Jay, un marchand de Besse qui, se rendant à la tour d'Auvergne au temps de la Réforme, se serait moqué de la statuette noire. Il y avait un marchand qui venait de Besse, juste sous nos pieds, et arrivé entre le Pavin et Vassivière,
il fut aussitôt frappé par la main de Dieu et perdu en un instant la vue.
Il a soudainement perdu la vue à l'endroit où il y avait un ravin. Et pour moi, le ravin, c'est le lac.
Le marchand ne l'aurait retrouvé qu'après avoir cessé de la mépriser et s'être repenti longuement à genoux.
Et il a recouvert la vue.
Une fois le miracle du marchand acté par les autorités religieuses, on descendit la Vierge jusqu'à l'église de Besse. Le lendemain, elle remonta seule jusqu'à Vassivière.
Et à partir de ce moment-là, on a décrété que la Vierge de Vassivière était miraculeuse et qu'elle pouvait faire des guérisons miraculeuses.
Yvan croyait d'autant plus à ces miracles qu'il les soumettait à mon entendement. J'avais 13 ans, il en avait 17. Je l'écoutais comme un gamin à qui l'on raconte son premier conte. Une autre enfance était possible, mais une enfance étrangère à la pesanteur d'un monde auquel Yvan refusait de se soumettre. Devant la chapeloune, qui protégeait une source d'eau bénite, Yvan m'énumérait quantité d'autres cas de miracles.
Tu entends la prière,
remonte jusqu'à la reine-mère, Marie de Médicis, qui est propriétaire de toute la région, de la tour d'Auvergne et de Besse, et qui autorise la construction d'une chapelle devant laquelle nous sommes. Et la chapelle a été construite en quelques années et ouverte en 1555. Donc cette chapelle a maintenant plus de 450 ans et c'est toujours le lieu où on monte la Vierge de Vassivière tous les ans avec une grande piété. Elle monte début du mois de juillet et elle redescend à la fin septembre. Elle reste donc 3 mois par an dans la montagne et elle protège les habitants de Besse et des alentours contre tous les maléfices. Et elle fait de nombreux miracles qui sont aussitôt consignés et déclarés par les autorités ecclésiastiques. Il y a même un notaire ecclésiastique spécial qui consigne les miracles de Vassivière.
Miracle de Vassivière, 1550-1600. 1594. La ville d'Allanche et toute sa population viennent à l'aurore avec bannière à Notre-Dame de Vassivière. Un homme eut du mépris et de l'indifférence. Le malheureux fut subitement percu de tous ses membres. De retour à Allanche, il repart en pèlerinage à Notre-Dame et fut guéri.
Et dans beaucoup de cas, nous avons des guérisons de cécité ou de commotion, de gens qui sont commotionnés dans la vallée. Nous avons aussi des phénomènes atmosphériques tout à fait particuliers, des éclairs et du tonnerre. Alors que le ciel est beau, on entend une explosion terrible, les gens sont couchés par terre, et à la fin de cet épisode, l'air revient comme avant et il y a une très forte odeur de soufre. Et c'est un des épisodes qui arrivent en 1551, 1615, qui sont très bien décrits et que jusqu'ici, personne n'avait vraiment compris ni remarqué.
Ça va, pas trop dur. La boue dans la boule.
Mais ça, on est habitué. Hein.
Ça glisse pas?
Non. Ça fait 60 ans que je viens.
Que vous faites quoi?
En tant que cœur et porteur. On porte la Vierge de Besse à Vassivière. On est 4 porteurs et on se relaie toutes les 10 minutes. Et toutes les 2 stations sur la montée.
Un enfant malade est amené à la Vierge pendant la communion. L'air, qui était pour lors fort calme et extrêmement serein, se changea si subitement que tous les assistants en furent dans l'étonnement. Un vent impétueux se leva tout à coup et avec tant de violence qu'il les renversa presque tous par terre, ce qui acheva de les mettre dans l'effroi et la crainte. C'est qu'en même temps, on vit tout l'air comme en feu par la durée des éclairs horribles qui suivaient sans intermission. Ces tonnerres épouvantables qui se faisaient entendre de toutes parts. Ce n'était que les effets de la rage du démon sorti de ce corps possédé. C'est qu'on sentit une puanteur en souffrait qu'on avait peine à supporter. Plus d'une centaine de personnes en ont été les témoins oculaires.
En fait, on peut comprendre ces épisodes atmosphériques comme autant de dégazages soudains et assez violents du lac Pavin qui est donc juste à nos côtés. Quant aux problèmes de cécité et de commotion, on peut les rapprocher des mêmes effets du dégazage du lac de cratère, le lac Nyos au Cameroun, et qui fit 1700 morts en août 1986, il y a donc 30 ans. Et il y a eu des milliers de gens qui ont été commotionnés, blessés, qui ont eu des graves maladies de peau, qui ont eu des cécités et qui se sont progressivement rétablis. Et donc, c'est des symptômes qui sont dus à l'effet du gaz carbonique. C'est l'effet de l'intoxication par le gaz carbonique.
1608, une villageoise de Besse rapporte. Mon enfant de 3 ans a été saisi et enlevé par une bête féroce. Après invocation à Notre-Dame de Vassivière, l'animal, effrayé, prend la fuite et laisse l'enfant qui n'avait aucune blessure.
Il y en a ? C'est vrai.
Vous en connaissez ?
Non, non. Pas ici. Il y en a eu, mais bon, ça c'est... Il faut y croire, car c'est tout, comme tout.
Il en savait sur lui plus que ce qu'en disaient les guides touristiques et les conteurs du coin. Son absence de fond, une sorte de dolmen planté aux abords d'un chemin forestier frayé à la hache, ses reflets sombres alors même que le soleil le frappe. Il me dit qu'en latin, pavens signifiait l'épouvantable, qu'il est unique, car son eau profonde, privée d'oxygène, ne se mélange pas avec son eau de surface. Et si un corps lourd franchit cette frontière invisible, estimée à 60 mètres de profondeur, il ne remonte plus. Il y avait dans ce lac quantité de vies insignes, de femmes humiliées ou bannies. Il m'expliqua la présence au bord des rives du siège du diable. Les larmes du malin, éconduits par une femme de Besse, auraient englouti par vengeance le village tout entier avant qu'il ne se jette à son tour dans ses propres eaux. Il ne faut pas lancer de pierre dans le lac, sinon à réveiller sa colère, et avec celle du diable le tonnerre et les éclairs. Plusieurs habitants du village voisin affirmaient avoir entendu sonner les cloches de l'église prises sous les eaux, ainsi que le chant cristallin des noyés du pavin.
Aucun habitant des environs n'oserait s'attarder sur cette plaine liquide. Un tourbillon existe au milieu et engloutirait l'imprudent qui voudrait y conduire sa barque. Une pierre lancée assez loin pour atteindre ce gouffre fait bouillir les eaux et produit un orage. Autrefois, quelques habitants de Besse, aussi courageux que curieux, osèrent se risquer en radeau sur le lac. Ils firent couler 313 brasses de cordes sans toucher le fond.
Le bateau qui passe, il y en a très très peu. Avant 1840, il n'y avait jamais eu aucun bateau sur le lac. Les gens pensaient qu'il y avait un grand tourbillon au milieu du lac et qui aspirait tous les bateaux. quand les légendes du pavin ont été évoquées pour la première fois devant un parterre de volcanologues et de limnologues, il y a eu un grand froid dans la salle, pour ne pas dire plus, parce que c'était l'intrusion de l'irrationnel dans un monde rationnel, l'intrusion des sciences humaines soudaines, et l'assistance a été vraiment prise de court. Moi, j'ai pensé que cette histoire de pierre jetée qui déclenche des éclairs et du tonnerre, c'est-à-dire une réaction du lac, pouvait faire penser à un dégazage. Et j'ai donc commencé à chercher des sources historiques et des sources légendaires. Je me suis aperçu que ce qu'on racontait comme légende au XIXe siècle était en fait des descriptions historiques du XVIe et du XVIIe, qui n'étaient pas du tout présentées comme des légendes à ce moment-là. Depuis quelques années, les scientifiques anglo-saxons et italiens ont développé le concept de géomythologie, c'est-à-dire comment, à travers les mythes racontés par les peuples autochtones en grande partie, on peut reconstituer des événements géologiques du passé, par exemple des tsunamis, des éruptions volcaniques, des tremblements de terre, etc. Et donc j'ai appliqué le concept de géomythologie au pavin et je me suis appliqué à faire une grille sensorielle de la façon dont on peut décrire un dégazage, c'est-à-dire avec la vue, l'odorat et même le toucher, parce que les gens prennent de l'eau du pavin en particulier, qui vient d'être mélangée, et trouvent que l'eau n'est pas claire comme celle qu'on voit sous nos yeux, qui a 10 mètres de transparence parfois, mais elle peut avoir, dans certains événements exceptionnels, une allure de limon glutineux, disent les textes.
Le 21 août dernier, le jour fort serein, j'ai été du côté de Vassivière. J'ai traversé le petit ruisseau sur les 8 heures du matin, dont l'eau était fort claire. Le soir, en revenant avec un bourgeois de cette ville, sur les 4 heures du soir, j'ai trouvé l'eau de ce ruisseau fort trouble et jaunâtre. Mon fils, étudiant de philosophie à Clermont, qui venait après nous, en se promenant en la compagnie de 3 prêtres et d'un diacre de cette ville, ayant aperçu cette eau toute sale et monté avec le diacre à l'embouchure du lac. Ils ont trouvé toute la superficie de l'eau trouble, charriant une espèce de limon glutineux. Mon fils a mis cette eau dans le creux de la main et cela lui a procuré 3 vessies ou boutons qui lui ont causé une petite douleur. Le soir de ce même jour, le garde de la terre est venu me dire « Monsieur, il y a quelque chose d'extraordinaire dans le lac Pavens, où je n'ai jamais vu une chose semblable. L'eau de ce lac bouillonne partout, quoi qu'il ne fasse pas du vent. Il est toute jaunâtre et même rouille en certains endroits. »
C'est-à-dire un espèce de floc orangé, jaune-orangé, et que les géochimistes peuvent interpréter comme un précipité de sel de fer, d'où sa couleur. Et donc on a des changements de texture de l'eau, on peut avoir aussi des changements de goût. Certaines descriptions disent que l'eau est aussi amère et aussi corrosive que de l'acide sulfurique. Et donc je me suis fait cette grille et je l'ai appliquée au pavin. Et en fait, il apparaît que de nombreux autres lacs ressemblant au pavin, avec la même origine et avec aussi du CO2 profond, ont pu avoir du dégazage par le passé. En particulier 2 lacs en Italie, le lac Averno, près de Naples, qui signifie « sans oiseaux », qui était considéré comme l'entrée des enfers au 7e siècle avant Jésus-Christ, par les colons grecs de la région de Naples, et puis un autre lac, toujours près de Naples, qui s'appelle le lac de Monticchio, et où Saint-Michel est apparu au 7e siècle après Jésus-Christ, apparu dans les cieux, c'est-à-dire en fait il y a eu des éclairs et du tonnerre et ça a été interprété comme l'apparition de Saint-Michel. Et depuis le 7e siècle, il y a un culte de Saint-Michel qui est régulier chaque année à ce lac de Monticchio. Et le culte de Saint-Michel est très proche de celui de Vassivière, car on promène la statue de Saint-Michel au travers du lac, en bateau. Il traverse le lac et il remonte à l'abbaye qui est maintenant construite un peu au-dessus du lac et de ses fureurs, à 100 mètres au-dessus du lac. Et Saint-Michel regagne sa grotte miraculeuse.
Au sommet s'élevait un palais merveilleux dont les remparts semblaient forger des reins incandescents. Dans les fossés coulait un fleuve d'or en fusion. C'était là le jardin des fées. Les peuples voisins se prosternaient devant cette merveille comme devant le trône de leur dieu. Les fées, en bonnes filles de Satan, recevaient avec orgueil ces sacrilèges d'adoration. Le mur d'enceinte était de nature à arrêter le téméraire. C'était un dragon immense dont les plis faisaient trois fois le tour de la montagne. On le voyait onduler sa croupe monstrueuse, étinceler ses yeux féroces, grincer ses dents terribles. Le monstre était vorace, et lorsqu'un voyageur passait dans la plaine, une fée s'élançait dans les airs, courait au-devant du malheureux, le fascinait, l'égarait. Alors le monstre déroulait ses anneaux sans nombre et s'élançait comme un trait sur sa victime, et avec un rugissement rauque, revenait prendre sa position d'observation. Les peuples, pour l'apaiser et se rendre favorables aux fées, lui livraient fréquemment des victimes humaines. Chaque mois, un jeune enfant était déposé en hâte au pied de la montagne où le dragon venait le dévorer à son réveil. Des siècles durant, l'hydre se nourrissait ainsi des enfants jusqu'à l'arrivée d'un prédicateur d'un dieu nouveau qui leur reproche leur idolâtrie et qui promet, au nom du dieu qu'il annonçait, de les débarrasser du dragon.
À ce moment-là, l'Église paléo-chrétienne fait grand cas des dragons. Et les dragons sont associés au mal qui est vaincu par le christianisme et en particulier par les premiers évangélisateurs. Ici au Pavin, il y a deux histoires figurant un dragon à l'époque antique. Il y a une première histoire qui est une légende qui a été décrite en 1893. Et on a un autre épisode de dragon, qui est le dragon raconté par Grégoire de Tours et qui est le dragon de l'ermite Calupa. Alors Calupa est un personnage historique, il vivait en ermite dans des grottes et un jour il a été confronté à l'arrivée de deux dragons. La légende dit que le dragon a relevé la tête et a immobilisé l'ermite et ce n'est qu'au bout d'un long temps que l'ermite a pu bouger sa main, il a fait le signe de croix, il a vaincu le premier dragon.
Le dragon ouvre une gueule formidable, roule ses yeux injectés de sang et se met à glisser le long des pentes gazonnées, brisant tout sur son passage et rugissant d'une façon sinistre. Une dernière convulsion agite ses replis et tout son corps inerte roula au pied de la montagne. L'apôtre gagne alors le cœur des barbares reconnaissants.
Et à ce moment-là est arrivé un deuxième dragon qui lui a enserré les jambes et l'ermite Calupa a eu le plus grand mal à se tirer du deuxième dragon. Et Calupa vivait en 590 et on sait que vers 600, il y a eu une surveille catastrophique du lac. Et donc on peut faire une réinterprétation du dragon de Calupa. Premièrement, ça se situe à 10 km d'ici, dans la vallée de la Couspavin, aux grottes de Jonas. Deuxièmement, le premier dragon, c'est un dragon qui immobilise Calupa, et c'est le dragon gazeux du CO2. Et le deuxième dragon, c'est l'arrivée de la coulée de boue peu de temps après et qui enserre Calupa. Donc on a à la fois des éléments aériens, des éléments aquatiques et des éléments terrestres. Et vous avez tous les éléments pour faire un animal composé de ces trois éléments, d'où les ailes du dragon, le corps serpentiforme du dragon, la puissance du dragon. Et il est possible aussi que le dragon cracheur de feu soit lié au lac des Gazans, car quand il y a du méthane qui dégaze, quand il y a un peu de méthane dans ces lacs-là, le méthane des Gazans peut s'enflammer spontanément dans l'air. Ou alors, ce sont les éclairs produits par l'électricité statique lors du dégazage, qu'on a aussi observé au lac Nyos, au Cameroun. Il y a eu des jets de lumière spontanés, décrits par les scientifiques.
À 18 ans, Yvan quitta l'Auvergne et sa mère. On sait, par le témoignage de l'agent de la préfecture qui acta le changement d'orthographe de son nom, qu'il est passé par Clermont à la fin du mois d'octobre 1989. Et plus personne n'eut de ses nouvelles. Yvan disparut. Dans une cassette audio retrouvée dans sa chambre, enregistrée peu avant sa disparition, il évoque sa fascination pour le lac. Pour sa mère Nicole, il ne fait aucun doute qu'Yvan avait rejoint ses profondeurs. L'histoire familiale raconte qu'il est venu ici à plusieurs reprises surveiller l'évolution de l'épaisse couche de glace au cours de l'hiver et jusqu'au printemps 1990. Des recherches ont été menées dès l'été, en vain. Son corps n'a jamais été retrouvé. Yvan n'avait rien de commun avec les générations passées de notre famille, lié au destin des métallurgistes, disparus aujourd'hui. Il renouait de bien plus loin avec le métal, sondant l'origine et ses soubassements merveilleux d'une terre frontière. Depuis la disparition d'Yvan, je reviens chaque été au chevet de ce lac. C'est ici que j'apprends à conjuguer nos histoires, celles d'Yvan et de nos ancêtres, en suivant les ramifications du fer, depuis la couche vitale jusqu'au noyau terrestre. Je remonte dans le noir. J'éclaire un peu l'obscurité. J'écris une fiction, la vie d'Yvan Bonnefoy, avec un Y.
Pavins, un lac épouvantable. Avec Michel Mébec, géochimiste, et des lectures légendaires des riverains du Pavin. Mado, Agnès, Christiane, Roger, Dominique, Michel, Christine et Gérard. Prise de son et mixage, Olivier Dupré. Attaché de production, Inès De Bruyne. Coordination, Irène Omelianenko. Merci à Christiane De Vrint et au père Jacques David. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Marie-Laure Ciboulet.
Demain, dans Création On Air, c'est le retour de Sound Factory. Deux expériences sonores, une dans le métro, avec Paul Heinz, et la seconde, dans un bar PMU, avec Marie Limoujou. Belle soirée, à l'écoute des nuits de Philippe Garbi.